Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'as fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
et ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un go là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour, chers auditeurs, nous sommes à l'émission 265 des entonnoirs et nous allons commencer avec la pause musicale du fameux Roger Lucien. Alors, Roger Lucien, qu'est-ce que tu nous as concocté comme morceau de musique aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous faire passer une chanteuse de Côte d'Ivoire que j'ai eu l'occasion de passer ici, mais j'avais omis de citer son nom, donc je vais le faire aujourd'hui. Il s'agit de Monique Seka.
Merci Roger Lucien. Nous continuerons l'émission avec l'interview du docteur Jolivet que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à notre émission. Ensuite, une petite pause musicale avec Ali, présenté par Blandine. Un poème de Bruno. Bruno, un tout petit mot en vitesse.
La semaine dernière nous étions à Valenciennes et j'ai eu l'occasion d'interviewer une charmante dame bulgare qui travaille en France dans les marionnettes et elle m'inspirait la femme cyrillique.
Très bien. Et nous terminerons l'émission avec une pause musicale détaillée de Florent sur...
Sur un chanteur qui a pris sa retraite il y a peu, c'est Sinclair. Sinclair, voilà.
Mais merci Florent. Ben, on va démarrer tout de suite l'émission avec Roger Lucien. Roger Lucien, à vous.
Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, prenons la direction de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Côte d'Ivoire, où nous allons écouter une chanteuse ivoirienne qu'on appelle Monique Seka, qui nous interprète Demi Demi.
Ah.
diagro mai e distiwa maimba imba wet akua bibedi na ya pitimuri hanyame 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 manisa e biama mifanyeye
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
Parce que j'ai lu ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est comme style de musique africain.
Ben, je crois que je le classerais plutôt dans l'afrozouk. Et donc, c'est un morceau extrait de l'album Le Best de Monique Seka, une chanteuse ivoirienne. Mm-hmm. Je ne comprends pas les paroles, malheureusement, mais je pense que ce sont des paroles romantiques, des paroles d'amour qu'il y a dans ce morceau. Puisque c'est un extrait love. C'est titré love sur...
C'est un truc grand. Voilà.
J'ai envie de d'être très romantique parce que dans la forêt vierge équatoriale, romantique, à mon avis, ça rime avec moustique. Qu'en pensez-vous? Surtout que les moustiques, rappelons-nous, ce sont les femelles qui sucent, pas les mâles. c'est important à savoir, ça. C'est très romantique, hein, qu'en pensez-vous?
C'est déplacé. Oui, alors nous allons passer à l'interview du docteur Jolivet qui est qui est avec nous donc pour répondre à nos questions. Et donc nous allons lui poser déjà une question. Blandine va commencer par la première question.
Oui, bonjour docteur Jolivet, bienvenue à notre émission. Nous sommes ravis de vous accueillir. Tout simplement, est-ce que vous pourriez vous présenter?
Ah oui, je vais faire un effort. Je suis tombé dans la psychiatrie il y a plus de 60 ans. Et voilà, j'étais médecin des hôpitaux psychiatriques. Ensuite, je suis tombé là encore dans l'associatif, où j'ai construit pas mal de services. Et puis voilà. Et puis j'étais président de la Croix-Marine, enfin des choses qui vous intéressent pas directement. Enfin, je suis toujours là, toujours près de vous et toujours attentif à justement à vos questions que vous pouvez me poser.
Très bien, Bruno.
Puis-je faire un éloge humoristico-poétique, monsieur
monsieur, vous prenez vos risques là.
Oui. En disant que finalement, je vais faire un éloge maintenant à votre aspect de psychiatre, c'est que dans les rapports humains, vous avez dépassé, comment dire, vous avez évité les maladies vénériennes en privilégiant les rapports, les maladies citoyennes. Qu'en pensez-vous ?
Oui. Oui, oui.
C'est mignon, c'est mignon. Mais tout le monde a le droit de vie privée, cela ne me regarde pas. Voilà, je vais... Un peu d'humour, ça fait du bien.
Absolument, absolument.
Roger Lucien.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Moi, j'aimerais vous poser une question sur l'évolution de la formation de psychiatre. Est-ce que la formation d'aujourd'hui est calquée sur la formation que vous avez eue il y a une soixantaine d'années, enfin, à peu près, je pense.
Oui, je connais pas trop la formation telle qu'elle se fait actuellement. J'ai l'impression, mais alors là, je prends des risques, hein. J'ai l'impression qu'elle est toujours aussi nulle que ce que c'était avant, parce que réellement, la formation que nous avions dans ces temps lointains, c'était une formation de communication, de proximité avec des gens qui étaient des gens particulièrement remarquables, alors que on apprenait un peu comme cela, un peu en fonction de ce qu'on pouvait désirer, de ses propres envies, de ses propres possibilités. Je suis psychanalyste en plus, donc ça a aiguillé ma formation de manière un peu particulière. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre très précisément avec objectivité sur ce qui se passe actuellement. J'ai pas l'impression que ce soit extraordinaire. Si j'en juge par les quelques collègues jeunes internes que je puis voir et qui se dirigent dans des voies très précises, en particulier chimiothérapique. Vraiment, comportementalisme et chimiothérapie, c'est des choses qui maintenant tiennent sans doute le haut du pavé. La psychothérapie, psychanalyse étant vraisemblablement légère régression par rapport à ces deux monuments-là, comportemental et médication. Voilà.
Excusez-moi, moi j'ai une question à vous dire. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Voilà, vous trouvez que de nos jours, c'est mieux la psychiatrie ?
Maintenant ?
Oui.
Je sais pas, non. Je sais pas. J'hésiterais plutôt à vous répondre oui, mais j'hésiterais aussi à vous répondre non.
Alors, oui, c'est là ou l'autre.
C'est là ou l'autre.
Oui, parce que ça évolue en mal, non ?
C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'évolutions du monde psychiatrique qui n'est pas particulièrement favorable. L'évolution générale du monde psychiatrique dans lequel se trouvent les psychiatres, les infirmiers, les patients, tout le monde. Hein. L'évolution en général est plutôt problématique actuellement. Autant, oserais-je le dire, que la psychiatrie politique. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans la société, dans la cité. Elle n'est pas imperméable aux évolutions de la cité. Et en particulier, si celle-ci n'est pas bonne, la psychiatrie n'ira pas non plus. Il y a une étroite relation, je ne sais pas quel est votre avis dans ce domaine, une étroite relation entre la politique au sens noble du terme, hein, pas droite-gauche ou autre, mais simplement la cité. C'est l'organisation de la cité. Et la psychiatrie doit y jouer un rôle, et au fur et à mesure du temps, ce rôle, elle le perd, elle l'a perdu.
J'ai une question encore à vous poser. Pensez-vous que ça va mieux en bien ou en mal ?
Oh ben, je sais pas. Je peux pas répondre là.
Donc apparemment, il n'y a pas eu d'amélioration pour le bien.
Il n'y a pas eu d'amélioration. Il ne faut pas exagérer parce que, vous savez, la psychiatrie s'est faite d'une quantité de gens qui travaillent dans la psychiatrie, médecins, les infirmiers, etc. Il y a des endroits où il se fait un travail formidable.
D'accord.
Il y en a d'autres où alors c'est plus ou moins bien. On peut pas non plus généraliser trop comme ça. L'opinion que je vous ai donnée, c'est une opinion générale sur la place de la psychiatrie dans la cité, et qui est à mon avis à revoir complètement.
Moi, j'apprécie quand vous parlez de citoyenneté et de politique en psychiatrie. Je crois que c'est juste. Et je crois aussi c'est un rapport avec l'éthique, avec l'humanisme. Et je crois que ce qui fait le drame de l'humanisme aujourd'hui, c'est qu'on assiste. Il y a des spécialistes, des experts partout, mais on manque, comment dire, de l'essence fondamentale de l'humanisme. C'est-à-dire que les humanismes sont dispatchés dans différents expertises, spécialités, tiroirs, et qu'on n'arrive pas à rassembler tout ça.
Et pourtant, c'est pas sans entendre, le patient est au centre du système. Combien de fois nous l'avons entendu, écrit, etc. Or, effectivement, il en est loin d'être au centre du système, à mon avis. Sur un plan global, un plan général, un plan humaniste, si vous voulez.
J'apprécie particulièrement la psychiatrie, notamment la psychanalyse, oui. Pour qui j'ai une affinité particulière, parce oui. qu'elle est tellement entourée de mystères dans notre monde si peu, qu'il la dévoile si peu, quoi. Pour des raisons que j'ignore, à mon avis. Donc, voilà ma question. Quels sont les buts de l'État que vous connaissez, qui empêche la psychiatrie de passer tout simplement comme une autre maladie, c'est-à-dire dans l'argent dévoyé à la psychiatrie, dans les structures, donc l'argent des structures, etc.
Oui, c'est une question assez compliquée, historique, de tout temps, ça a été un petit peu mis à part. Je pense que ce qui vous intéresse actuellement, c'est l'actualité, et peut-être demain, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour sortir d'une situation qui en France est très régalienne, c'est-à-dire que l'État est en ce domaine-là très puissant, dans l'organisation, je ne parle pas de traitement proprement dit, mais l'État dans l'organisation est toujours le maître d'œuvre de l'organisation de la psychiatrie en France. Vous voulez causer là? Non.
J'ai encore une question à vous poser.
Ouais. Voilà. J'ai pas fini là.
Ah, excusez-moi. Non, vous en prie. Excusez-moi.
Simplement que le problème qui se pose à nous, qui se pose à vous et à moi entre autres, c'est est-ce qu'on peut dépasser cette prééminence de l'État? Est-ce qu'on peut envisager une plus grande proximité dans la réalisation de la psychiatrie avec les territoires, les élus de près de chez nous? Enfin, est-ce qu'on peut penser, réaliser autre chose que... Vous savez ce qui se passe, enfin, pour les psychiatres, dont j'ai été pendant de nombreuses années, c'est qu'ils attendent les lois ministérielles, les oukases ministérielles. Alors comment le rapport... On fait des rapports, il y en a des rapports qui ont été faits, il y en a des... il y en a beaucoup. Et à la suite de ça, on attend la loi. Voilà, le ministère va donner la loi. Et bien c'est ça peut-être qui est à réfléchir et à modifier. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas d'importance. L'État doit avoir un rôle de régulation, mais pas forcément un rôle de construction et d'édicter jusqu'au point ou virgule que nous sommes obligés de suivre.
Pourquoi on continuera dans le même domaine pour la discussion ? Excusez-moi de prendre encore le parti, mais je pense qu'il y a la discussion, qu'une discussion qui s'enchaîne, qui est assez intéressante. Si quelqu'un veut discuter là-dessus, on peut tout à fait laisser ma place. Donc pourquoi, je sais plus ma question, mais pourquoi l'État, parce que vous n'expliquiez pas les raisons de cette, vous ne les expliquez pas les lois.
Si, mais je craindrais que ça n'entraîne trop de temps et pour le dire maintenant. Mais vous savez, la France est un pays hyper concentré. Vous le savez bien, le pouvoir de Paris, c'est pas rien. Hein. Ça commence à évoluer depuis quelque temps déjà, mais elle est hyper concentrée. Et ça, c'est un gros problème qui rend difficile une évolution. Il faut que l'État abandonne certaines choses au profit des collectivités locales, par exemple. C'est pas évident. Hein. Ça a commencé maintenant depuis une dizaine d'années, où ce qu'on appelle la décentralisation fait que ça se rapproche quand même un peu plus du modeste peuple que nous sommes.
Marco. Oui. Que pensez-vous de la loi 2011?
De la
loi 2011.
Mon Dieu, c'est quoi ça déjà?
La loi qui a été votée en 2011.
Qui?
En août 2011. La nouvelle réforme pour
la
les...
Ah, la dernière là-bas, oui. Excusez-moi. Oui. Sur les gens, l'introduction du juge, etc.
Oui, c'est ça. Oui.
Je l'ai dit ce matin à votre micro, là, ma position, moi, elle est très nette, elle est très claire, quitte à que je reçoive des boules. Pour moi, il n'y a qu'une personne dans notre société qui ait l'autorisation d'enfermer les gens, c'est le juge. Personne d'autre. Je suis donc tout à fait d'accord pour que tout ce qui nécessiterait un enfermement soit d'un rôle judiciaire. Il y a énormément de pays où c'est comme cela. La France restait un des seuls pays où les décisions pouvaient être prises soit médicales, soit administratives. C'est un des seuls, hein. Pour les autres, il y a toujours une... Vous étiez complet, là, oui?
Oui, oui. Jean-Monsieur, moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà consulté en difficulté des patients en prison?
Moi, non. Je ne suis jamais allé en prison, personnellement, et je n'ai... Alors, c'est une expérience très lointaine, à ce moment-là. C'est auprès des adolescents en maison d'éducation surveillée. C'est le seul souvenir que j'ai, en dehors du rôle d'expertise que j'ai eu, pour des problèmes, soit de civil, soit social.
Est-ce que vous faites de votre métier une passion, ou est-ce que vous accrochez à fond, ou est-ce que les médicaments peuvent primer sur le reste? Bon, il faut pas éviter de s'isoler quand on est malade, mais est-ce que les médicaments peuvent primer sur le reste, en quelque sorte, surtout pour les angoisses? Moi, j'ai besoin de ça pour les combattre, en fait. Et pour
Bon, alors, tombé dans la psychiatrie, je suis tombé relativement jeune, après avoir fait presque toutes les spécialités médicales et chirurgicales, mais je suis tombé dans la psychiatrie, j'arrive pas à en sortir. C'est un problème, hein.
J'ai une dernière question, est-ce que vous avez...
Ah bah non, j'ai pas répondu à l'autre.
Excusez-moi.
Qu'est-ce que c'était l'autre déjà? Ah oui, pour les médicaments? Qu'est-ce que je peux dire, là? Les médicaments sont une nécessité dans bien des cas, mais ce n'est pas pour moi ma panacée universelle. Je suis psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste. C'est donc essentiellement par le contact avec les gens, par la parole, que peut-être le soin, dans certains cas, peut s'instituer. Mais je ne renie absolument pas la nécessité des médications et même d'actions physiologiques diverses, etc., suivant les cas. Je ne suis pas contre. Ce qui me paraît, monsieur, c'est quand ça devient unique, oui, dominant, à l'exclusion de toute autre chose, comme j'ai connu certains services. C'était même pas la peine de parler des malades. On parlait de la dose qu'ils avaient, de l'état dans lequel ils étaient, etc. Mais c'est tout.
J'aimerais savoir pourquoi, en France, le handicap psychique a été reconnu très tard.
Je suis totalement contre le handicap psychique. C'est une invention des parents qui ont créé le handicap psychique pour des raisons absolument économiques. Mais le handicap psychique, ça me plaît pas du tout. D'abord parce que ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessous? On peut se le demander. Et d'autre part, quand vous mettez quelqu'un, vous dites de quelqu'un, c'est un handicapé psychique, c'est un handicapé. Vous le marquez. Et ça, non. Je me refuse à marquer les gens, en particulier avec un titre qui est complètement... Il n'y a rien derrière. On ne sait pas ce qu'il y a. Donc je suis contre cela. Ceci étant, ça n'empêche pas que s'étudient les problèmes du handicap de la personne, ce que nous avions essayé de faire admettre par le ministère au moment où cette fichue loi est sortie, personne en position de handicap. Ça change tout. Parce que si vous êtes en position de handicap, vous ne recevez pas sur la tête un coup. Sur la tête en disant, je suis un handicapé, et en plus un handicapé psychique. Mais ça n'a pas été retenu, parce que le ministère a dit à ce moment-là, mais si on met une telle phrase, alors on va avoir des quantités de gens qui vont demander les subsides et les aides économiques. Donc ça n'a pas été retenu.
Et nous allons donc enchaîner l'émission avec une pause musicale. On va écouter Ali. qui a participé à une émission télévisée et qui va nous chanter une chanson de Souchon.
When petite sœur will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my cold when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mentaux.
Comme je suis d'origine piémontaise, je suis piémonté, quelque chose me dit que vous êtes une pointure de la psychiatrie. Logique, c'est l'humour qui commence. Et par rapport à ça, on parlera donc, je crois que vous avez écrit en relation à la psychiatrie et à la citoyenneté, je crois.
Voilà, on a écrit, le deuxième bouquin n'est pas encore parvenu jusqu'à vous, ce que je regrette d'ailleurs, ça s'appelle Les soins en psychiatrie, une affaire citoyenne.
D'accord.
Voilà, c'est le deuxième livre. Voilà.
Peut-être pour planter le décor, c'est que on est à l'hôpital. Ici, je pense qu'on va parler plus sur la psychiatrie et le soin sur l'hôpital.
Bienvenue à l'hôpital Le Bonafé, l'hôpital Bonafé qui a...
Lucien Bonafé, que j'ai bien connu.
D'accord.
Oui, ça remonte à un certain temps.
Tout à fait. Moi, je trouve que Bonafé, c'est un beau nom. Bonafé, c'est un beau...
Oui, oui.
Parce que il m'arriverait un très beau, très bon... quelque chose de formidable que je vous raconterai après l'émission, parce que je ne peux pas le dire à l'émission. J'ai un très bon souvenir par rapport à l'hôpital Bonafé ici, suite à un événement artistique à l'hôpital, qui a émerveillé l'hôpital. Ça peut arriver. Par les mots, simplement la magie des mots. Et donc, vous êtes à l'hôpital qui a été créé il y a quelques années, 2006, je crois. Oui. Votre première impression par rapport à l'hôpital?
Je me garderai bien d'avoir une première impression. Je me méfie des premières impressions parce que ou elles peuvent être une acceptation d'emblée, comme ça, sans trop de raisonnement, ou un refus d'emblée, sans plus de raisonnement. Donc là, ben, je vois des locaux. Je hume l'air. Et c'est très important. Vous savez, quand dans les premiers moments de départ de l'hôpital de Villeurbanne en particulier, ils ont construit sur les hauteurs de Paris une superbe maison. C'était vraiment la délocalisation, la sortie de l'hôpital, etc. Et quand je suis arrivé dans cette nouvelle construction, j'ai humé l'asile. Il n'y avait rien changé. Il n'y a rien de changé. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que j'emploie ce terme de humer l'atmosphère, l'ambiance, plutôt que de dire, ben là, c'est bien, c'est propre, les lits sont bien, etc. Bon, ceci étant, donc, c'est une certaine méfiance de ma part, mais une méfiance logique, d'une certaine façon. Et mais je trouve que l'hôpital est très aéré, très clair ici. C'est bien, il y a des transparences. Il y a des transparences. C'est important qu'il y ait des transparences dans la vie. Voilà, me poussez pas trop sur le caractère architectural de la chose.
Alors, docteur, moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la dernière loi, l'une des dernières lois sur la psychiatrie, en parlant de l'hospitalisation sous contrainte.
Vous savez, c'est un énorme problème qu'on traîne depuis des décennies et des décennies, quasiment depuis que la psychiatrie et la psychiatrie, c'est un problème qui est constamment remis en question. Il y a d'abord eu les lois sécuritaires, hein, que vous connaissez bien, et que nous avons réprouvé absolument parce que c'était un recul quant à la dynamique de la psychiatrie de plusieurs années. Bon, enfin, peu importe. Actuellement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là exactement ?
Enfin, qu'est-ce que vous en pensez en tant que thérapeute, en tant que médecin ?
Alors, en tant que médecin, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que il n'y a qu'une personne qui peut priver de liberté, c'est le juge. Personne d'autre. Bon, silence.
Ouais.
Mais
c'est un petit peu surprenant, priver de liberté une personne, c'est un petit peu surprenant quand même.
Ah non,
parce qu'il y a une éthique en psychiatrie.
Si vous commencez à respecter la personne, à respecter le citoyen qu'il est, etc., vous avez vis-à-vis de lui certains devoirs, qu'il soit malade ou non. Ça n'a pas d'importance. Et à ce moment-là, on commence par la personne, on commence par le citoyen, puis ensuite on voit le malade. Donc pour la personne, pour le citoyen, il lui faut des garanties. Or, les garanties, seule la justice peut la donner. Ou l'interdire, ou la donner, enfin, etc. C'est pour ça que notre position, je suis pas le seul à avoir cette position-là, c'est que, bon, ça entraîne beaucoup de complications, de difficultés, je crois que toutes les équipes vivent cette difficulté d'aller appeler le juge, qui se dérange d'ailleurs pas, où faut emmener les malades, ça fait une perte de temps extraordinaire, mais enfin, bon, dans le principe, puisque nous restons dans le principe, je vous répète qu'il n'y a pas d'autre, dans notre civilisation, d'autres personnes agréées pour une privation de liberté que la justice.
Et pensez-vous qu'il fallait légiférer, qu'il faut une nouvelle fois légiférer
Alors ça, dans le détail, je ne sais pas trop, j'en reste au principe. Quand, vous savez, un principe, toute application d'un principe de ce type est extraordinairement difficile. Et entraîne une obligation de moyens, mais bon, si on respecte le principe, on trouvera le moyen que ça aille bien. Si on ne respecte pas le principe, alors c'est tout autre chose. Donc là, on arrivera petit à petit, mais il faudra un certain temps. De l'argent, des moyens, du personnel, enfin.
Docteur, je crois, j'ai peut-être repéré, reniflé, excusez-moi, je mets l'expression reniflé parce que j'ai un côté animal comme tout être humain. L'expression de transparence que vous employez.
Oui.
Moi, j'en pense souvent l'expression de transparence par rapport au néant. Le néant est transparent. Donc, ça fait partie de mes codes personnels. Et que pensez-vous, par exemple, moi, je renifle à vous que vous n'aimez pas deux choses, pour le soin psychiatrique. L'asepsie et le scientisme. Est-ce que je me trompe?
L'asepsie?
Et le scientisme.
Qu'est-ce que vous entendez par là, le scientisme?
Le scientisme, c'est
le scientisme.
Le scientisme, le scientisme. C'est-à-dire que tout faire de la religion une science et se méfier de la folie parce que justement, elle est hors des cadres cartésiens de la pensée humaine.
Ouais, bien sûr, mais vous savez, comme disait Lucien Bonafé, hein, il l'a souvent répété, la folie est le, c'est l'engrais du monde. La folie, c'est le, il l'a souvent dit, c'est que c'est grâce à la folie qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ça, c'est la folie pour en général. Autrement, ce qui est important, c'est la personne. Alors avec la personne, qu'est-ce que vous voulez là? Tout est à trouver, tout est à approcher. C'est du moment qu'on a une certaine précaution, un respect de la personne. Et vous savez, quand vous faites des institutions lourdes, le respect de la personne disparaît. Il finit par se noyer dans l'ensemble, dans l'administratif, dans la nécessité, etc. Et quand on parle de citoyenneté, c'est en partie cela. C'est-à-dire retrouver la personne et retrouver le citoyen, c'est-à-dire celui qui a gardé un emploi, un être là, dans la société. Et c'est ça qui est important, plus que le reste, je ne sais pas. Le reste après, c'est affaire de, disons, de relations interindividuelles entre le médecin ou l'infirmier et le patient. C'est là que vont se créer des nœuds, des liens transférentiels qui permettront qu'il avancera ou il avancera pas. Mais bon, c'est surtout ça. Le reste, en dehors bien entendu de la médication, de la des médicaments, etc. Enfin, différentes choses physiologiques qu'on peut utiliser. Dans lequel je rentre pas parce que là c'est trop difficile. On s'aperçoit bien que les médecins, ils ont chaque médecin a sa théorie et son application de sa théorie. Et que c'est une illusion de penser qu'il n'y a une théorie, une approche. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ou alors on fait des congrès quand même pour se rencontrer de temps en temps. Mais l'important, c'est que dans la relation humaine, interhumaine, le médecin, l'infirmier, enfin, celui qui est amené à donner des soins, a sa théorie du soin. Et c'est ça qui est important pour nous, pour vous, de pouvoir se rencontrer pour discuter de cette théorie-là, de ma théorie, à condition que j'ai la possibilité de l'exprimer. Et croyez-moi bien que dans les hôpitaux, c'est pas demain la veille que les personnels auront la facilité de s'exprimer tel qu'ils pensent les choses. Bon, mais si vous faut m'arrêter. Hein,
non, non, mais ça intéresse. La réflexion est intéressante, mais qu'est-ce qui fait qu'on justement il y a pas cette possibilité justement de pouvoir partager et discuter de ces différents points de vue. On le voit actuellement, il y a des clivages comme ça même secteur, des clivages comme ça. Il y a moins de discussions, il y a moins de disponibilité, et ce qui justement impacte sur le soin.
Vous savez, ça s'apprend, ça. Hein. Ça vient pas de soi. J'ai été faire une supervision dans un service important de la Sainte-Anne, très biologique, hein, très médicamenteux, etc. Et j'ai fait une supervision là. On m'a dit, faut voir avec les équipes. Donc les équipes se sont réunies et je me suis étonné, mais enfin, du mutisme des soignants. Ils n'avaient pas la parole. Il ne trouvait pas la parole. Il trouvait la parole pour dire, oh ben ce médicament-là, il fait de l'effet, ou bien il dort bien, ou il dort là, ça marche. Mais quand il s'agissait de s'exprimer profondément de ce qu'il ressentait, le soignant, de ce personnage-là, alors là, rien. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps de supervision que les infirmiers se sont mis à parler de M. Dupont, de M. Durand, et dire ce qu'ils en pensaient, eux. Vous voyez, cette espèce de liberté de parole et de liberté de dire ce que nous pensons, nous, de celui que nous avons en face. Et d'ailleurs, il peut très bien, lui, en penser autant dans l'autre sens, et dire, ce gars-là, ce médecin, c'est vraiment un nul, ou cet infirmier,
Oui. Alors moi je voulais savoir, est-ce que vous pensez que il y a une liberté, le patient a une liberté à l'intérieur de l'hôpital?
Il y a eu un gros progrès quand même dans ce domaine-là. Je pense que les plus anciens se rendent compte. C'est quand même pas l'asile que nous avons connu, que moi j'ai connu quand j'étais interne, en nom d'un chien. Ça a quand même beaucoup évolué. Maintenant, a-t-il assez de liberté? Ça, je peux pas vous dire. Ça dépendra des lieux, des endroits, des médecins, des infirmiers, de la manière. Vous voyez, je vais peut-être dire un truc que je voudrais pas dire. Mais j'étais surpris parce que votre médecin, le docteur, voilà, avait des clés. Je dis pourquoi elle a des clés? Elle a pas pu me répondre. Ben, elle dit, c'est une habitude. Je croyais que c'était une obligation administrative. Mais ça m'a rappelé ma jeunesse. Ou alors là, tout était bouclé, absolument. La clé, c'était, on portait la ceinture. Bon, c'est ça, une réponse à la liberté. La liberté, de toute façon, ne peut être que partielle. Elle n'est pas comme ça, il ne faut pas rêver une atmosphère libertaire, tout azimut, où chacun ferait ce qu'il veut. Non, il y a quand même des limites. Vous savez très bien d'ailleurs que la liberté de l'un se mesure à la liberté de l'autre.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que par rapport, les clés. Moi, c'est ce qui m'a traumatisé dans mes deux hospitalisations, c'est le bruit des clés. Le bruit des clés, les portes qu'on ferme derrière soi. Ça m'a martelé encore longtemps. Je crois. Et deuxièmement, il y a un autre aspect aussi que c'est que certes, il est dangereux d'avoir une psychiatrie officielle d'État.
Officielle.
D'État, c'est dangereux, très dangereux. C'est le totalitarisme, assuré. Mais d'un autre côté, il faut quand même accorder son violon entre soignants parce que il est certain qu'un malade peut déménager, par exemple, quelqu'un qui souffre. Et si l'un un soignant dit vert et l'autre dit du rouge, ça peut déstabiliser le soignant. Je pose bien le problème, je crois.
Oui, là, vous faites, là, dans la première partie de ce que vous dites, faire allusion au colbertisme. Vous savez que la France est un État hyper centralisé. Il commence à l'être un peu moins, mais avec une difficulté énorme. C'est Colbert, c'est vraiment Louis XIV. Hein, depuis des temps anciens, la théorie psychiatrique était formée par l'État. C'est l'État qui a la grande main, il l'a toujours d'ailleurs. Et ça, c'est un énorme problème, parce que ça évite, ça empêche la proximité. Et la proximité, c'est quoi? C'est le maire du village, c'est les conseillers municipaux, c'est les élus, c'est les gens qui sont là. Quand l'État édicte les choses, alors tout le monde se met à appliquer ce que l'État dit de faire. Et ça, c'est catastrophique en France. Ça commence à changer. Le dernier rapport qui a été fait par le ministère est beaucoup moins raide qu'il n'a été, que certains qui l'ont précédé l'ont été, en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Là, on tombe dans une possibilité plus large.
Est-ce que vous ne pensez pas justement que les médecins psychiatres sont aujourd'hui dans un rôle de médico-administratif, où ils sont dans la paperasserie, etc., et moins justement dans leur rôle plus de soins?
Tous les médecins hospitaliers sont dans la même chose. Que ce soit en médecine générale, en chirurgie, etc., les médecins sont surchargés de troubles, de problèmes divers administratifs, qui finissent par leur bouffer leur temps. Je pense que les psychiatres n'échappent pas à cela. Ceci étant, vous parlez des psychiatres, j'en suis un quand même, pas dire des j'aime bien les psychiatres en général. J'aime bien, quoi. Mais encore là, vous avez psychiatre et psychiatre. Vous avez le psychiatre qui a fait une psychanalyse, vous avez le psychiatre comportementaliste, vous avez le psychiatre, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut respecter d'une certaine manière, parce que c'est le choix du médecin de prendre telle ou telle chose, tel ou tel type thérapeutique. Si ça convient pas au malade, eh bien, il a qu'à changer.
Je crois qu'il y a un gros progrès par rapport, il y a un gros droit qui a été gagné du malade par rapport avant, c'est que le malade peut changer de psychiatre maintenant.
Ah bah heureusement.
Oui, donc c'est un gros progrès.
Ah ben non, pas dans le secteur public. Dans le secteur public, il est sectorisé. Et donc il va au secteur. Il n'a pas de liberté là dans ce sens. S'il habite de l'autre côté de la rue et si le secteur commence de l'autre côté, ben on l'envoie à une autre équipe. Non, la liberté est un faux semblant. Hein.
au point de vue psychiatrie publique. C'est un faux semblant.
Parce que j'ai ma psychiatre qui m'a dit, monsieur Morello, si ça va pas avec moi, vous changez de psychiatre dans l'équipe, quoi.
Dans l'équipe. Ah, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose.
Alors moi, je voulais savoir, docteur, attendez que je me souvienne de la question. Pensez-vous que le soin a évolué dans les hôpitaux? Quand je parle de soins, c'est aussi bien les médicaments que les thérapies. Et au niveau international et en France, pensez-vous que les thérapies ont évolué en psychiatrie?
Difficile à vous répondre, peut-être. Je crois que dans le fond, pas grand-chose. Il n'y a pas grande évolution, même s'il y a des objets qui changent, même s'il y a des moyens qui changent, la manière de faire, la manière de prescrire, la manière de n'a pas toujours évolué. Hein. Ça reste toujours un petit peu la même chose. Ce qui a quand même qui s'est ouvert, c'est pas la liberté, mais le champ du possible. Le champ du possible est quand même considérablement augmenté actuellement pour les malades, pour ceux qui ont... Bon, ils peuvent changer de médecin, comme vous avez dit, ou peuvent aller se faire traiter ailleurs, etc. Le champ du possible augmente. Et alors, d'autre part, il y a quand même le social. Le social dont le développement est considérable, et devrait être considérable, s'il n'y avait pas ce hiatus, s'il n'y avait pas cette séparation entre le sanitaire et le social, qui est un truc invraisemblable, qui perdure au fil des ans, dû à la suite de la loi de 75, en fin de compte. Alors il y a le monde du social, hein, le monde de l'aide, le monde de la vie, et puis le monde du soin, comme s'il ne devait pas être intimement associé. Voilà, au monde du soin. Voilà. Alors avant, on disait, ah ben il va sortir, mais allez voir l'incident social. L'incident social, essayer de se débrouiller pour trouver que c'est obsolète, ça devrait être obsolète. Mais en réalité, on en est loin. Et les équipes médicales ont beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à incorporer le social. Non pas incorporer dans le sens de l'annuler, mais d'au moins d'avoir un lien avec le social. Et c'est ce que nous avons défendu dans les bouquins qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il faudrait lier les deux et qu'on cesse de cette incantation que nous avons entendue. Ah, il faut rapprocher le sanitaire du social. Et puis, c'est rien du tout. Ça change pas du tout.
Alors moi, je voulais savoir, docteur, que pensez-vous des activités thérapeutiques? Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'activités thérapeutiques et ça m'a donné une énergie, une envie de vivre, de me battre. Et maintenant, bon, j'ai avancé, quoi, psychiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est bénéfique et qu'il faut continuer l'expérience?
Bah, vous savez, c'est comme pour moi, hein. Moi, j'aime bien les activités, j'aime bien faire des activités. Je vois pas pourquoi ce serait différent
Je vous parle d'activités thérapeutiques.
D'activités thérapeutiques. Ouais, moi, je suis tout à fait pour. D'accord. Tout à fait pour. Avec, faut pas que ça soit une espèce d'obligation. Voilà, on va, comme en prison, ouais, on va en prison, là, on va à l'atelier, on fait des trucs, quoi. Non, l'atelier thérapeutique, c'est un moyen. C'est un moyen pour que le sujet puisse s'exprimer autrement que lorsqu'il est avec le médecin ou que lorsqu'il est dans sa chambre ou lorsqu'il est avec d'autres personnes. Là, il peut s'exprimer, il peut trouver quelque chose en lui, découvrir quelque chose et ainsi s'améliorer. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est embêtant, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a plus de temps. Enfin bon, le personnel, tout le monde, dans cet afflux de choses qu'il faut qu'on fasse dans le domaine administratif, trouver le temps d'avoir des activités libres, décontractées pour les uns et les autres, eh ben c'est pas évident.
Oui. En dehors des activités thérapeutiques, en fait, il existe les GEM.
Ah oui.
J'étais vice-président du GEM de Roubaix. Et qu'est-ce que vous pensez de cette activité hors du soin?
J'en suis tout à fait partisan. Mais c'est une vieille histoire pour nous, parce qu'avant que les GEM existent, au niveau de la Croix-Marine, de l'association Croix-Marine, il y avait eu déjà, particulièrement à Toulouse, il y avait eu des créations comme ça de gens où les patients s'organisaient eux-mêmes, faisaient eux-mêmes leurs choses. C'est très important, parce que ça fait découvrir une chose. C'est qu'on guérit, certes, grâce aux médicaments, grâce aux médecins, mais aussi en s'entraidant les uns les autres.
Absolument.
Et ça, c'est fabuleux. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qu'on croyait complètement... brusquement, ils résurgissent, et ils vont trouver un intérêt. Je suis tout à fait pour. À une condition, c'est que les GEM soient indépendants. c'est que les germes ne soient pas sous la coupole. Sous la coupole.
Sous la coupe des familles,
par exemple. Ouais, bah, c'est pas du tout. Il faut que ça soit un truc indépendant qu'on aide avec très souvent une personne centrale. Hein, qu'au, très souvent dans les germes, une personne qui est une référence, qui aide les uns et les autres quand il y a un petit problème.
Dernière question, elle sera futuriste. La vie étant un mouvement, la psychiatrie nouvelle doit s'adapter à de nouveaux types de maladies. Quel nouveau type de symptômes de maladie? Quel nouveau symptôme, à votre avis, risque-t-il de...
Non. La psychiatrie, bien entendu, il y a des maladies qui vont survenir comme ça, mais en réalité, vous savez, il y a tout un stock déjà que nous avons. Mais l'expression peut en être différente. C'est pas ça le problème. La psychiatrie doit être sociale. La psychiatrie doit rejoindre le citoyen. Elle doit. Vous savez, il y a tellement de d'essais qui ont été faits pour que la psychiatrie passe mieux et tout ça avec un résultat nul. Il faut que ça revienne aux citoyens, qu'elle devienne sociale. Que le citoyen, qui d'ailleurs maintenant prend Internet, et c'est exactement ce qu'il doit prendre, et qu'il le dit à son médecin, en disant, moi je veux pas prendre ce médecin, ce médicament, etc. Donc quand il y a une information de ce type, c'est une autre forme qu'il faut essayer de trouver.
Et donc, d'après vous, il n'y aura pas de nouvelles maladies psychiques, etc.
Oh non, je pense pas.
Non, on connaît bah, déjà non, les grandes bah, familles.
Savez, je suis pas pythoniste, hein, je suis pas Madame Soleil, mais je ne pense pas.
D'accord.
Je ne pense pas. L'homme est fait comme il est. Il va sans doute changer, bien sûr, mais je pense pas qu'il y ait des choses catastrophiques comme ça.
Comme il n'y a plus de questions à poser, moi, j'aurais juste vous demander les écrits que vous avez publiés. Vous en avez publié pas mal. Et il y a Claude qui a amené un de...
Oui, mais il n'a pas amené le second.
Vos livres.
Il n'a pas voulu acheter le second,
donc peut-être ça sera l'occasion peut-être d'en faire la publicité pour qu'il puisse acheter demain. Avec,
non, l'écriture, j'ai au moins quelques 500 publications. Donc... Les publications étaient nombreuses. Les livres, il y en a relativement peu, dont les deux derniers sont celui que nous avons fait, que j'ai fait avec Marie-Laurence, Marie-Noël Besançon, qui s'appelle Arrêtons de marcher sur la tête. Ce qui est déjà un titre qui montre que ça n'a pas du tout en psychiatrie changé. Et le deuxième, là, que M. Dognon n'a pas voulu l'acheter, c'est La psychiatrie, les soins en psychiatrie, une affaire citoyenne. On rejoint là une affaire citoyenne.
Eh bien, écoutez, nous vous remercions beaucoup d'être venu autour de notre table répondre à ces quelques questions. On aurait pu vous en poser encore pendant plusieurs heures, je pense.
C'était la seconde, non? La seconde.
Mais en tous les cas...
C'était la seconde. Émission auquel...
Le second livre, c'est le...
Non, émission d'Entonnoir. C'est au moins la deuxième. La deuxième pour vous.
Oui, c'est la deuxième.
Ben merci encore. Hein.
Ben, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites.
Vous faites partie de la famille. Hein.
Oui, merci beaucoup.
Je remercie Blandine qui va lire un poème de moi qui s'appelle Femme cyrillique, dédié à toutes les femmes slaves, et toutes les femmes sont slaves. Blandine, vous êtes slave quand vous allez lire le poème.
Ben, si vous le dites, Bruno.
Voilà, il n'y a pas de problème.
Donc, votre poème s'intitule... La femme cyrillique. J'ai interviewé la femme cyrillique, elle est vraiment idyllique, en la personne de Stanka, dont le sourire de marionnettiste est aussi celui de ses doigts qui, avec doigté, séduisent avec le fil de la vie. J'ai été charmée par son approche slave, en femme cyrillique de Sofia, où elle m'a transportée par la magie simple de son aura. Elle que j'ai savourée en Stanka, femme cyrillique, qui réside véridique en créature idyllique dans la fin de Nouveau Jour où féline, elle y appose l'amour. Eh bien, nous allons terminer l'émission avec une toute petite rubrique de Florent, une pause musicale détaillée. Et il me semble que c'est sur Sinclair.
Exactement, avec plaisir. Alors oui, Sinclair, c'est un chanteur français, auteur, compositeur, musicien, né à Tours le 19 juillet 70. Et il faut savoir qu'il s'est inspiré de la musique afro-américaine avec ces idoles qui étaient il fut un temps Stevie Wonder, Prince et Jimi Hendrix. Voilà, et il a participé à la Nouvelle Star, a devenu la Nouvelle Star, mais comme il était un peu agacé par le niveau de certains participants, il a dit, il a pris ses glics et ses claques et il s'en est allé. À la prochaine.
À la semaine prochaine. Chers auditeurs, auditrices, et bonne santé.
À toi, Ben. Donc, le fou, Saint-Clair.
Les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.
C'est des entonnoirs parce que j'ai une autre plus fou dans la tête et ça gratte des poux sur ma tête et je viens plus fou, c'est ça les entonnoirs.